Je suis très heureuse d'être parmi vous et très honorée d'avoir été invitée pour faire ce travail. Alors effectivement, donc le Centre Interface s'occupe de mettre en place la recherche universitaire sur le terrain. C'est un exercice de grand écart. Je suppose que je ne suis pas la seule ici à faire ce genre d'exercice. Mais en particulier, on s'est occupé donc de mettre en réseau les différentes disciplines. Notre équipe au Centre Interface est multidisciplinaire et voilà, ça a été l'occasion de travailler sur l'interdisciplinarité et sur des compétences transversales. Alors bon, j'ai pris des notes tout au long de la journée. J'ai quelques feuilles, je ne vais évidemment pas tout vous dire puisque le temps est vraiment limité. Je vais donc essayer d'avoir une lecture un petit peu critique, on va dire, un regard un peu extérieur par rapport à tout ce que j'ai entendu ici. Et cette relecture, qui est un exercice extrêmement important justement pour la pérennité des apprentissages, et j'y reviendrai encore tout à l'heure, cette relecture est extrêmement importante, mais évidemment elle ne se fait pas hors contexte. Je me suis demandé pour qui cette relecture, pourquoi, donc j'ai essayé de me rappeler les demandes qu'on m'avait faites. On m'avait demandé donc un petit peu d'identifier des leviers, des obstacles, mais je crois qu'ils ont déjà été bien évoqués tout à l'heure. Et puis aussi des pistes pour faire évoluer la situation. Donc finalement, je m'en tiendrai surtout à cet objectif-là, voir un petit peu comment on peut rendre ces projets pérennes, les voir un petit peu évoluer dans le temps et leur donner une certaine durabilité. Et bien pour ça, j'ai utilisé une grille d'analyse. Peut-être vous la connaissez, c'est la grille d'Arduino, Jacques Arduino. Manifestement, il y en a qui connaissent. C'est une grille qui évoque différents niveaux. Niveau d'enjeu, niveau de compréhension, niveau d'action, etc. Et vous verrez qu'au fond, ce n'est pas tout à fait innocent si j'ai pris une grille d'analyse. C'est pour étayer mon hypothèse, une hypothèse en tout cas du centre dans lequel on travaille, qui est que finalement, on peut transférer un modèle. Quand on travaille en situation, quand on est le nez dans le guidon, eh bien, c'est pas toujours facile d'en sortir et c'est pas toujours facile de reproduire quelque chose qui nous a beaucoup motivés, beaucoup impliqués. On en a parlé beaucoup tout à l'heure. Mais donc, parfois, ça vaut la peine de se donner un modèle hors de la situation et qu'on peut transférer dans toutes sortes de situations. Eh bien, finalement, cette grille d'Arduino, je trouve qu'elle illustre très très bien ce propos. Et donc, les différents niveaux d'enjeu, eh bien, c'est l'individuel, hein, la personne dans son individualité, le relationnel, la personne en relation avec une autre personne, les interactions entre deux personnes, le groupal, hein, le petit groupe, par exemple, le groupe qui va faire le projet interdisciplinaire. Et puis, il y a l'organisationnel, c'est encore le niveau au-dessus, on va dire, ça peut être l'école, par exemple, hein, ça peut être un niveau qui est chargé de l'organisation de la logistique, et puis il y a le niveau institutionnel. Alors, je vous dis que tout ce que j'ai écrit aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup dans le niveau institutionnel, mais j'ai quand même relevé des éléments dans les différents niveaux. Et donc, comme je vous le disais, je vais essayer de m'attarder aux éléments qui permettent de voir la transférabilité, la durabilité de ce genre de projet. En tout cas, je pense que ce que nous devons viser, en tout cas d'après tout ce que j'ai entendu, c'est pour rendre cette éducation relative à l'environnement et au développement durable pérenne, eh bien, ce serait d'articuler tous ces niveaux d'action, de compréhension, etc., pour bien englober toute la complexité de la réalité scolaire. Eh bien, d'un point de vue individuel, encore une fois, il y a eu beaucoup de leviers qui ont été évoqués, etc., je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je reviens sur, et je crois que M. Debelle, là, qui est parti, avait bien insisté là-dessus, c'est sur, finalement, la relecture qu'on fait des événements. Qu'est-ce qu'on a vécu? Quel est le chemin parcouru? Qu'est-ce que j'ai appris? En quoi est-ce que je m'engage après? Donc, pour le niveau individuel, pour marquer la durabilité du projet, eh bien, s'attarder à cette métacognition et à cette relecture du chemin qui a été fait et qui reste encore à parcourir. Et ce qui est intéressant aussi, et quelqu'un d'autre y a fait allusion avec Yacine, je crois qu'il s'appelait, que le chemin peut être très différent pour chacun. Et ça, je pense que des projets de ce type-là permettent à chacun de se faire son chemin. Même si on a un objectif commun, un projet commun, eh bien, finalement, il y a peut-être des chemins différents pour chacun et même des chemins complémentaires. Et que là, tout le monde y trouve sa place. Du point de vue individuel, en ce qui concerne les obstacles, je voudrais insister sur deux choses. Un, la peur de l'incertitude. Donc, il y a tellement, comment vais-je dire, de flou dans cette éducation relative à l'environnement et au développement durable. Je pense que les enseignants ont peur de ne pas savoir où s'arrêter, comment faire, qu'est-ce qu'on attend de moi. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et demander aux enseignants, eh bien, très souvent, ils ont du mal de gérer cette incertitude, sans compter la peur de l'échec qui a été évoquée par un des projets. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne fait pas fi de la personnalité de quelqu'un. On ne peut pas tous rentrer dans le même moule. Je parlais des chemins différents. Eh bien, on a tous des compétences, plus ou moins relationnelles, ou plus ou moins de synthèse, ou plus ou moins de leader, ou etc. Et donc, à l'intérieur d'un projet, pour que ce soit viable, il faut tenir compte des différentes personnalités et faire en sorte que les personnalités ou les compétences individuelles se complètent plutôt que d'obliger chacun à rentrer dans un même processus. En termes de relationnel, eh bien, j'ai relevé très très peu de choses, et en tout cas très peu en ce qui concerne la pérennité de l'un ou l'autre projet, sinon que finalement ce genre de projet peut changer le lieu de parole du professeur et de l'élève, ou du professeur et des élèves. C'est-à-dire que c'est probablement un moment où le maître n'est plus là, omniscient, omnipotent devant sa classe, mais qu'il y a un réel échange qui apparaît, et que ça, c'est peut-être quelque chose qui justement peut être reproduit et qui peut vraiment donner de la motivation aux apprentissages. Au niveau groupal, qu'est-ce que j'ai relevé comme levier donc qui peut rendre ces projets transférables? J'ai noté dans le projet en Flandre, je crois, c'est la création de valeurs nouvelles au groupe. Comme on dit, le tout n'est pas simplement la somme des parties, c'est plus que ça. Et donc c'est vraiment intéressant parce qu'on crée alors une véritable appartenance à un groupe. Et je l'ai entendu un certain nombre de fois aujourd'hui, la reconnaissance. La ministre de l'énergie est venue, on a eu un article, on fait partie de ce groupe qui a été reconnu, le sentiment d'appartenance. Et donc bien sûr la culture commune, etc., qui en découle. Ce que j'ai noté aussi, c'est l'apprentissage. C'est un peu tarte à la crème, hein, mais je voulais quand même le noter parce que ça a aussi été évoqué. C'est l'apprentissage par le conflit socio-cognitif, c'est la confrontation aux autres. Tiens, toi tu penses ça, moi je ne pense pas tout à fait comme ça, finalement, qui a plus raison? Donc vraiment, ça c'est l'apprentissage. Et c'est une autre façon d'apprendre. Si les enfants, les jeunes, etc., comprennent qu'ils peuvent aussi apprendre comme ça, pas seulement en ingurgitant tout ce qui est donné en classe, eh bien, ça, c'est quelque chose qui peut aussi rester. Et c'est une méthode, certainement, qu'ils utiliseront par la suite. J'ai bien sûr noté la notion d'auto-évaluation. Voilà de nouveau une procédure. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, je le dis comme ça, hein, c'est sûr et c'est explicite. Depuis le début, tous les éléments sur lesquels j'insiste, ce sont donc des éléments relativement décontextualisés, on pourrait dire, donc pas propres à une situation, mais qui peuvent au contraire se retrouver dans plusieurs situations. Donc ce sont des éléments qui sont, on pourrait dire, hors contexte, qui font partie d'un modèle. Donc effectivement, cette auto-évaluation, de nouveau, ça peut être une procédure qui peut être mise en place à l'occasion d'un tel projet, mais qui peut être transférée. Et donc, je trouvais que l'idée de l'auto-évaluation à l'intérieur du groupe, c'était vraiment quelque chose qui pouvait favoriser cette transférabilité et cette durabilité des projets. Donc, l'utilisation d'un modèle, si vous voulez bien, j'y reviendrai après, parce qu'on a parlé d'interdisciplinarité, etc. Je voudrais donc, après, quand j'aurai vu tous les niveaux, j'avance, je voudrais quand même vous dire quelques petits mots sur l'interdisciplinarité. Voilà, les trois premiers niveaux sont déjà plus ou moins évoqués, hein, donc individuel, relationnel, groupal. Et puis, on arrive évidemment au gros paquet, c'est l'organisationnel et l'institutionnel. Qu'est-ce que je voudrais relever comme levier dans l'organisationnel? Eh bien, que l'école, puisqu'on va parler d'école, ce sera plus simple. Je pense que globalement, c'est bien ce niveau-là qui est visé, hein, dans tout ce que vous avez dit aujourd'hui. L'école doit avoir une vision et un plan d'action. Il me semble que ce sera durable, etc., si l'école construit, si vous voulez, hein, ou implémente, oui, etc., une culture d'école. C'est-à-dire qu'elle a une vision. On a beaucoup parlé de projet éducatif. Mais au-delà du projet éducatif, parce qu'il faudrait quand même aussi voir un petit peu que dans le concret, finalement, ce projet éducatif, il est souvent mis sous la table, hein, on ne regarde plus trop. Hein. Mais vraiment une culture d'école. C'est-à-dire que ce projet éducatif doit être vraiment vécu de l'intérieur. Et donc, le rappeler, ça, c'est vraiment une dimension organisationnelle qui, à mon avis, incombe à l'école. On a beaucoup parlé des moyens, mais ça, je n'y reviendrai pas. Je pense que dans la culture d'école, donc dans la vision, qui est une vision d'interdisciplinarité, etc., il y a aussi la vision d'une école ouverte. Plusieurs fois, ça a aussi été évoqué dans la journée. Donc cette culture d'une école ouverte, hein, l'école ne travaille pas en vase clos, parce que le risque, évidemment, c'est que l'école développe des valeurs trop éloignées, des valeurs que la vraie vie véhicule, et alors l'école perd de sa crédibilité. Et je vais déjà faire une petite parenthèse, mais je crois que j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu tout à l'heure aussi. Il me semble que la dimension qui a été évoqué ici est beaucoup trop orienté vers l'action. Hein, donc on trie les déchets, on va au bois, enfin, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Et monsieur a fait allusion à toute la dimension économique. Dès que nos élèves quittent l'école, ils y sont confrontés. Peut-être en l'UNIF, ils sont encore un peu privilégiés, mais enfin, quand même, très rapidement, ils sont confrontés aux forums, etc. Enfin, et à gagner sa vie, et puis mon stage d'attente, il dure 9 mois. Ah oui, je ne serai pas payé avant. Ce sont des choses qui sont réelles. Pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas ça dans la dimension de l'éducation relative à l'environnement et au développement durable? Tout cet aspect économique. Est-ce qu'un homme d'affaires qui prend l'avion 2 fois par semaine pour aller faire ses affaires et qui fait vivre l'économie belge, par exemple, est-ce qu'il ne fait pas du développement durable? Enfin, il y a quand même des questions, je trouve, qui sont intéressantes à poser et qui ne sont pas de l'ordre du c'est bien ou c'est mal. Pas manichéenne, il y a toujours toute une nuance à apporter. Donc voilà, en termes de levier, c'est ce que je voulais dire. La culture d'école, une école ouverte vers l'extérieur pour qu'elle reste crédible, qu'elle porte des valeurs, ça je pense que nous sommes tous convaincus, mais qu'elle soit quand même en lien avec la réalité. Oui, encore quelque chose peut-être dans le même sens, c'est la création de traditions. Je parlais tout à l'heure d'appartenance et plusieurs projets ont évoqué l'octroi d'un prix. Eh bien, créer des traditions dans une école, ça rend pérenne des projets, etc., des initiatives. Voilà, en termes d'obstacles, je pense qu'on en a bien assez parlé. Le temps, les moyens, les budgets, les machins, les bazars. Donc là, je vais laisser ça à tout ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que c'était assez complet. Du point de vue de l'institutionnel maintenant, eh bien, tout ce que j'ai entendu, c'est que ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a en tout cas un fameux consensus social. Effectivement, monsieur l'a évoqué, c'est quand même une très bonne chose qu'il y ait un consensus social sur ce qu'on attend. Donc un consensus sur l'esprit, quel est l'esprit qu'on veut mettre dans nos écoles, etc. Donc les textes sont clairs, vous avez donné des exemples, les intentions sont très claires. Madame Rousseau, je pense, hein, qui a fait ce matin la toute première allocution, a bien posé le cadre. C'était très clair. J'ai eu le sentiment, moi, en vous entendant, qu'il y avait comme, je ne sais pas si c'est un nouveau, mais en tout cas un paradigme, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un paradigme qui est très clairement annoncé. Donc un paradigme, c'est une vision du monde, des lunettes qu'on met pour voir le monde. Eh bien, cette vision que Madame Rousseau est en concertation avec les deux autres, hein, j'ai bien entendu, eh bien, c'est une vision interdisciplinaire, une vision multidimensionnelle. Donc, sur tout ça, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un consensus très clair. Par contre, ce que je ne suis pas sûre, c'est que ça arrive toujours aux oreilles des acteurs de terrain, mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc, ces textes, ces intentions, etc. sont très claires. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Ça, je pense que ça laisse les enseignants très fort dans l'incertitude, comme je disais tout à l'heure, et puis, dans le flou, etc. Donc, je le dirai tout à l'heure, je pense qu'il faut les outiller, notamment de méthode, mais ça, j'y reviendrai. Et puis, j'ai relevé aussi la proposition d'une nouvelle discipline. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une nouvelle discipline, mais enfin, une discipline tout court, et puis on parlera de comment est-ce qu'elle émerge. Donc une discipline, ben, finalement, c'est un ensemble de savoirs, de méthodes, c'est du vocabulaire, etc. Mais tout ça, ça n'est pas né n'importe comment. En fait, une discipline naît à partir de pratiques sociales de référence. Et puis ces pratiques s'échangent, on en parle, on essaie de stabiliser un petit peu du vocabulaire, ça, et voilà, la discipline est en train de naître. La discipline se donne du vocabulaire, des méthodes, des savoirs. La discipline organise la recherche à propos de ces savoirs, de ces méthodes. Et puis elle en assure l'enseignement. Eh bien, il me semble que dans tout ce que j'ai entendu, c'est bien ça qui est en train d'émerger. Donc, je n'en sais rien, mais pourquoi pas, effectivement, être à l'origine de ce nouveau cursus disciplinaire dans les universités, dans les écoles normales, que sais-je. Ça, évidemment, le concret de l'affaire, évidemment, on doit l'inventer. Mais, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu durant la journée. Il y a aussi quelque chose qui m'a frappé, c'est que, je le disais tout à l'heure, les objets sont souvent concrets. On trie des déchets, je ne sais plus, c'est l'exemple qui me vient, mais enfin, il y en a eu plein d'autres. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu, mais on ne touche pas le secondaire supérieur, on ne touche pas l'enseignement supérieur. Peut-être faudrait-il penser à différents objets. Et l'objet, peut-être, est moins important que la méthode ou le processus pour parler de l'objet. Donc, peut-être faut-il faire évoluer l'objet, donc lié à l'environnement, au développement durable, en fonction de l'âge de nos jeunes qu'on veut toucher. Par exemple, donc je suis enseignement dans le secondaire supérieur, mais c'est clair que si on vient avec comment est-ce qu'on peut, je ne sais pas moi, économiser de l'énergie à l'école, ben, je vais leur dire, vous savez, on a un petit peu dépassé ce stade-là, on voudrait peut-être quelque chose plus de réflexion. Donc, on peut avoir des projets d'action à un certain niveau, je pense que c'est indispensable pour créer des automatismes, pour créer une culture, mais peut-être au fur et à mesure faire évoluer l'objet d'enseignement. Ça peut être des objets plus de réflexion, par exemple. Au lieu d'avoir un projet d'action, avoir un projet de réflexion, un projet de compréhension. Compréhension des différents enjeux, compréhension de ce que ça peut être un futur. Voilà, essayer de penser à adapter l'objet d'enseignement en fonction du niveau qu'on veut toucher. On a beaucoup parlé de formation initiale et continuée, je n'y reviendrai pas. Je souligne aussi le fait de favoriser des projets émergents. Alors, on n'aime pas tout ce qui vient du dessus. Pas, je crois que de temps en temps, il en faut quand même, il n'y a rien à faire, il faut des directives, c'est comme ça. Je trouve qu'une société peut dire à l'école, à ses enseignants, voilà ce qu'on attend de vous. Ça me paraît tout à fait légitime, mais peut-être le comment le laisser émerger alors de la base, ce qui rend certainement les choses avec beaucoup plus de sens, plus significatives et plus durables. Donc, je pense que pour pérenniser cet enseignement et le rendre viable dans les écoles, l'institutionnaliser, certainement, lui rendre ses lettres de noblesse, ou lui donner simplement ses lettres de noblesse, mais aussi outiller les enseignants avec des méthodes. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, je pense que l'objet importe probablement moins que la méthode qu'on utilise pour y arriver. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la méthode, un modèle, ça peut être transférable à différentes situations. Donc, si on enseigne, par exemple, les panneaux photovoltaïques, donc ça, ce sera l'objet. Mais finalement, ce qui va importer plus, c'est comment on va parler des panneaux photovoltaïques. Comment on va intégrer ces panneaux photovoltaïques dans la vie réelle, dans la vie économique, dans la vie administrative, avec les primes, etc. Donc, comment est-ce qu'on va construire petit à petit cette connaissance sur les panneaux photovoltaïques? Ça me semble plus important. Et non seulement la méthode me semble plus importante, comme je vous le disais, parce qu'elle va être transférable, mais pour qu'elle soit transférable, il faut que les élèves en aient conscience. D'où le retour à la métacognition. D'accord? Donc, il ne faut pas vivre le nez dans le guidon, mais reprendre du recul régulièrement pour voir le chemin qui a été parcouru, et c'est ça qui va rester chez les élèves. Donc, la méthode. Qu'est-ce que c'est une méthode? Eh bien, c'est évidemment se donner des objectifs et aussi se donner une représentation de ce que c'est. Et pour ça, je vais maintenant faire une petite parenthèse sur l'interdisciplinarité. Je pense que l'interdisciplinarité, ce n'est pas nécessairement, c'est aussi, mais pas nécessairement, de la collaboration. On peut faire de l'interdisciplinarité, tout seul, ça me paraît difficile, mais en tout cas, un enseignant peut faire de l'interdisciplinarité avec ses élèves dans sa classe. Pourquoi ? Bien parce que, pour nous, l'interdisciplinarité, c'est se donner une représentation interdisciplinaire d'une situation. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on va questionner des disciplines en fonction de son projet. On va éclairer le projet qu'on a par les différents apports disciplinaires. Et l'interdisciplinarité consiste à se donner une représentation qui intègre ces différents apports disciplinaires. Et donc finalement, quand on fait un projet en classe, on peut très bien aller envoyer certains élèves éclairer le projet avec telle discipline, tel autre groupe avec telle autre discipline, un troisième va aller à l'extérieur récolter d'autres informations, et on peut ainsi créer un savoir, un nouveau savoir interdisciplinaire. Donc, je pense qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Et j'ai cité ici notre mentor Gérard Fauré, qui disait toujours « Le vrai élitisme, c'est de croire qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de faire. » Donc, faire de l'interdisciplinarité, il y a certainement plusieurs façons d'en faire. Et puis, je terminerai en disant que je me suis quand même demandé, moi, si je fais de l'éducation relative à l'environnement et au développement durable, à partir de quand est-ce qu'on en fait ? À partir de quand est-ce qu'on n'en fait plus ? Eh bien, je ne peux pas répondre à cette question. Et je suppose que je ne suis pas la seule. Et ce qui me semble aussi intéressant, c'est que c'est parfois ce qui n'est pas quantifiable qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'on a tant de mal à évaluer l'implémentation des projets liés à l'ERE et au DD, parce que c'est souvent de l'inquantifiable. Et peut-être on doit admettre qu'on ne maîtrise pas tout. Que si on met des chiffres, etc., qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres? Est-ce que les chiffres ont une réelle signification? Je pense qu'on peut aussi se poser la question de l'évaluation. Comment est-ce qu'on peut évaluer quelque chose qui n'est pas quantifiable en termes de gains, notamment pour les élèves et les enseignants et les éducateurs, etc. Voilà. Je crois que j'ai globalement dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Je voudrais lancer encore un petit message. Donc le consensus est clair, le consensus social est clair sur la citoyenneté, etc. Mais de nouveau, même chose que pour l'environnement et le développement durable, c'est quoi la citoyenneté concrètement? Quand est-ce que je fais de la citoyenneté? Quand est-ce que je n'en fais pas? Ou quand est-ce que je n'en fais plus? C'est pas toujours évident non plus. Voilà, donc des beaux mots, très bien, on est bien d'accord là-dessus, et c'est pas toujours évident de mettre du concret. Voilà, je termine là-dessus, et je vous remercie pour votre attention.